Alors, la saison des parties de bureau de Noël, ben c'est commencé. Les gens y vont en plus parce que, bon, ça fait 2 ans qu'on est privé de parties de Noël et puis tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est pas mal d'accord pour retourner dans les parties de Noël avec les gens, voir les collègues et tout ça. Pour que tout se passe bien, il y a des limites à ne pas franchir, il faut vous le rappeler. Malheureusement, on entend trop souvent parler de comportements limites et déplacés qui viennent gâcher le party. Si certains de ces comportements sont seulement désagréables, il y en a d'autres qui sont carrément illégaux. Et pour nous aider à y voir plus clair à ce sujet, c'est important lorsque Marc-André Gagnon va nous dire du Centre de justice de proximité. Bonjour Marc-André.
Bonjour Annick.
Marc-André, premièrement, c'est quoi les principaux risques de débordement lors d'une fête organisée par un employeur?
Ben, en fait, comme dans toute occasion festive, il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais surtout aborder, c'est la notion d'inconduite sexuelle hein, qu'on entend beaucoup parler. C'est différents impacts juridiques aussi.
OK. Et comment est-ce qu'on définit l'inconduite sexuelle au sens de la loi? Parce que je te dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui analysent ça selon leurs valeurs, leurs jugements, alors que la loi, c'est pas nécessairement ce que tu penses, toi, à l'intérieur de toi.
Non, effectivement, et la notion d'inconduite sexuelle, c'est un terme qui est assez large, en fait, qui est pas défini par aucune loi. C'est plutôt un terme générique qui va englober plusieurs comportements, qui va englober autant les agressions sexuelles que les autres infractions à caractère sexuel interdites par le code criminel. Ça va aussi inclure le harcèlement sexuel qui est entre autres réglementé par le droit du travail.
Donc, si on commençait par la notion d'agression, qu'est-ce qui constitue une agression sexuelle au sens du code criminel?
Eh bien, au Canada, on pourrait définir une agression sexuelle comme étant un attouchement sexuel sans le consentement de la victime. Donc, pour que ça constitue un crime, une agression sexuelle doit comporter 3 éléments. 1, les attouchements. 2, la nature objectivement sexuelle des attouchements. Et 3, l'absence de consentement. Des attouchements, ça peut être par exemple un baiser, ça peut être une caresse, une relation sexuelle. Donc, c'est pas nécessairement un viol ou encore un contact avec les parties génitales.
Okay.
Techniquement, tout contact physique peut constituer une agression sexuelle. Mais là, encore faudra-t-il que le contact ait un caractère sexuel. C'est notre 2e critère. Pour évaluer ce critère-là, faut évaluer si, compte tenu de toutes les circonstances, est-ce qu'une personne raisonnable pourrait percevoir le caractère sexuel ou encore charnel de l'agression. Plusieurs choses qui vont être évaluées. La partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle ça s'est produit, les paroles, les gestes qui ont été dites. Toutes les circonstances, en fait, vont être des éléments pertinents pour définir si le contact est objectivement sexuel.
Et pour ce qui est du 3e critère, le 3e critère, c'est l'absence de consentement. Comment on définit ça, le consentement, d'un point de vue juridique?
Le consentement, on en entend beaucoup parler, mais au sens du code criminel, le consentement, ça consiste en l'accord volontaire du plaignant à l'activité sexuelle. Donc, c'est important de dire que le consentement, il doit être concomitant à l'activité sexuelle, c'est-à-dire qu'on peut pas le donner à l'avance. Donc, autrement dit, là, le consentement, c'est de donner clairement son accord à une activité sexuelle par des paroles ou encore par des gestes.
OK. On le donne sur le moment, là.
Effectivement, ça peut pas être fait à l'avance. Puis il faut vraiment faire poser un geste ou encore une parole qui va exprimer notre consentement. Alors, le fait de garder le silence, de rien faire, ce n'est pas de donner son accord à une activité sexuelle.
Ah, c'est intéressant, ça, cette nuance-là.
Mm-hmm. Donc, ça, des fois, quand il peut y avoir des débats, ben on va regarder hein, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait. C'est des choses qui sont analysées pour savoir si un consentement a été donné ou non. Autre chose qu'il faut savoir, là, c'est qu'une personne peut donner son consentement et changer d'idée par la suite. Donc, le code criminel prévoit que c'est possible d'annuler son consentement à une activité sexuelle à tout moment. Donc, même si l'acte était déjà commencé, on aurait quand même le droit d'annuler notre consentement.
Est-ce qu'il y a des exceptions qui feraient en sorte qu'un consentement serait invalide?
Ben oui, hein, comme dans toute chose, il y a toujours des exceptions, hein, surtout en droit. Donc, pour qu'un consentement soit valide, ben, il faut qu'il soit donné de façon libre et éclairée. Si ce n'est pas le cas, le consentement ne sera pas valide, même si la personne avait dit oui au départ. Donc, plusieurs exemples là, de cas où le consentement serait invalide. Ça pourrait être le cas où le consentement a été donné suite à des menaces. L'exemple, si on accepte de faire des actes parce qu'on a un fusil sur la tempe. Si le consentement a été donné suite à un mensonge qui va exposer l'autre partenaire à un risque important, ça serait un cas où le consentement serait invalide.
Comme le sida ou quelque chose comme ça?
Effectivement, le cas du VIH, là, donc si une personne est infectée par le VIH, ne le divulgue pas à son partenaire, puis qu'elle présente une charge virale importante, puis qu'elle décide de ne pas porter de condom, ça peut constituer une agression sexuelle. Donc, important d'informer l'autre pour que son consentement soit valide, après une décision en connaissance de cause. Donc, encore, j'ai quelques autres exemples. La personne, si elle ne peut tout simplement pas donner son consentement parce qu'elle est inconsciente, ben là, le consentement sera pas valide aussi. Un exemple qui peut être intéressant pour les gens, ben, il a déjà été reconnu par la Cour suprême que des actes sexuels, alors qu'une personne était inconsciente dans un contexte d'asphyxie érotique, ça avait donné lieu à une condamnation d'agression sexuelle. Donc, d'où l'importance de dire le consentement, ça se donne de façon concomitante, on peut pas le donner à l'avance.
Puis c'est comme aussi la boisson. Tu sais, des fois, tu es presque inconscient, tu es complètement, on va dire, gorlot, là, c'est l'expression qu'on dit par chez nous. Tu n'étais pas en mesure de donner ton consentement éclairé, là.
Effectivement, si une personne est inconsciente en raison de la boisson, ben, elle ne pourrait pas donner de consentement. Donc, c'est un autre bon exemple. Puis le dernier exemple que je voulais vous donner, là, c'est si la personne n'a pas l'âge pour donner le consentement. Donc, au Canada, là, on rappelle que l'âge pour donner un consentement sexuel valide, c'est de 16 ans, la règle générale.
Ça a été longtemps 14 ans, hein? C'est augmenté depuis quelques années.
Ça a été augmenté un petit peu, effectivement. Là, je ne rentrerai pas dans toutes les règles aussi. Mm-hmm. Il peut y avoir des différences d'âge où c'est permis, là, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est 16 ans, l'âge du consentement sexuel. De façon générale.
Dans les faits, là, est-ce que c'est possible qu'une personne croit avoir le consentement d'une autre, par exemple pour l'embrasser, mais que c'est finalement pas le cas? Si la personne porte plainte pour agression sexuelle, est-ce que c'est possible de se défendre en disant, par exemple, qu'on croyait que l'autre personne était consentante? On voit ça souvent en cours, là.
Dans certains cas, ça pourrait être possible, mais il faut comprendre que c'est quand même un moyen de défense qui est assez limité. Donc, entre autres, là, il ne faut pas avoir eu nous-mêmes les facultés affaiblies volontairement. Il ne faut pas avoir été insouciant par rapport au consentement de l'autre personne. Et il faut avoir pris les mesures raisonnables pour s'assurer du consentement. Donc, dans le doute, la notion du consentement, ça peut devenir complexe, d'où l'importance là, de s'assurer clairement de l'avoir avant de passer à l'acte.
Et ça, j'espère que les gens nous écoutent, parce qu'encore une fois, quand on a des discussions avec des gars, avec des filles, on a tous une idée de ce que c'est le consentement, de ce que ça devrait être, de ce que c'est une agression, de ce que c'est pas. Souvent, on se réfère à une autre époque, mais là, aujourd'hui, il faut s'asseoir comme il faut, puis en discuter, puis s'expliquer comme il faut, c'est quoi, pour pas avoir de mauvaises surprises à un moment donné, même si on l'a pas fait par exprès, ne pas le savoir, si j'ai bien compris, c'est pas une raison de défense en course.
Mais non, on a l'obligation de s'assurer qu'on a le consentement là, avant de passer à l'acte.
De là l'importance.
Donc, faut pas être insouciant.
C'est ça. De là l'importance de faire la chronique aujourd'hui. Dans un autre ordre d'idée, est-ce que toutes les agressions sexuelles sont traitées de la même façon juridiquement? On pourrait penser qu'un viol est plus grave que d'avoir donné un baiser non consenti, mais est-ce que la loi prévoit une différence entre tes deux comportements?
En fait, d'un point de vue purement juridique, il s'agit de deux agressions sexuelles. Par contre, il y a plusieurs niveaux d'agression sexuelle, si je peux dire ça de cette façon-là. Dans le cas d'un baiser qui serait non consenti, on va parler d'une agression sexuelle dite simple. Donc, la peine maximale que l'agresseur pourrait recevoir serait de 10 ans ou encore 14 ans si la victime avait moins de 16 ans.
OK, là, on parle d'un baiser non consenti avec peine maximale.
Peine maximale, c'est la peine maximale que le juge pourrait ordonner. Il pourrait ordonner moins quand même. Là. Il va apprécier l'ensemble du comportement. Là. Donc, c'est la peine maximale. Il y a d'autres cas où ça peut être des peines plus graves. Par exemple, si l'agression sexuelle a été faite avec une arme, avec la menace du utiliser une arme ou encore si elle a causé des lésions corporelles, c'est-à-dire si elle a causé des blessures à la victime. Donc, la peine maximale va passer alors à 14 ans. Et si la victime avait moins de 16 ans, l'agresseur pourrait être passé d'un emprisonnement à vie, donc à perpétuité.
C'est un pensée du bien.
Effectivement. Et il y a un dernier cas de figure, il y a le cas de l'agression sexuelle grave. Donc, si l'agresseur blesse, mutile, défigure la victime ou met sa vie en danger, il va commettre une agression sexuelle grave, puis là, à ce moment-là, il va être passible de l'emprisonnement à perpétuité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la gravité du comportement, ça n'a pas d'impact sur le fait que il y a une agression sexuelle qui a été commise, mais ça a plutôt un impact sur la peine qui va être infligée à l'agresseur.
J'ai remarqué tantôt, tu nous as dit qu'il n'y a pas que l'agression sexuelle qui est un crime. Alors, ce serait quoi les autres infractions à caractère sexuel prévues par le Code criminel?
En fait, je ne veux pas toutes les énumérer, mais on pourrait penser entre autres au voyeurisme. Donc, le voyeurisme, c'est le fait d'observer une personne qui se croit dans un endroit privé où elle peut se retrouver nue. Donc, ça pourrait être une infraction criminelle. On pourrait penser aussi au geste indécent, soit le fait d'exhiber ses organes génitaux dans un lieu public, ça pourrait être un exemple. On pourrait penser aussi au partage non consensuel d'images intimes. Donc, le fait de rendre accessible une image intime d'une autre personne qui n'aurait pas consenti. Donc, c'est tous des exemples d'actes criminels qui peuvent donner lieu à une arrestation. Ça peut donner lieu aussi à un dossier criminel s'il y a des accusations qui sont portées.
Oui, puis les images intimes partagées, là, on en parle beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est intéressant. Pour les comportements qui ne seraient ni une agression sexuelle, ni une infraction d'ordre sexuel, est-ce qu'on pourrait y avoir quand même des sanctions juridiques? Par exemple, un collègue qui ne cesserait pas de me faire des avances.
La réponse, c'est oui. Donc, en l'absence de contact physique, qu'on pourrait qualifier d'agression sexuelle, il peut quand même y avoir du harcèlement sexuel ou encore psychologique, puis entre autres en milieu de travail. Donc, pour qu'il y ait du harcèlement en milieu de travail, donc on va parler qu'il y a des comportements, des paroles, des actes ou encore des gestes qui sont répétés, qui sont hostiles ou encore qui sont non désirés par la victime, qui vont porter atteinte à la dignité ou encore à l'intégrité d'un autre collègue de travail. Donc, c'est des comportements là, qui vont entraîner pour ce collègue de travail-là un milieu de travail néfaste. Je veux préciser que dans certains cas, une seule parole ou un seul comportement grave, ça peut constituer du harcèlement, donc c'est pas à négliger.
C'est intéressant que tu le dises. Ouais, c'est intéressant que tu le dises parce que des fois, les gens, quand ils font juste une fois, ben là, on va dire, ben il a juste dit une fois, faut que ce soit répétitif. Fait que là, c'est pas nécessairement ça que tu es en train de dire. C'est un autre dossier, mais c'est intéressant.
Non, c'est pas. Je veux pas dire qu'on le voit le plus souvent, là, que c'est juste un comportement qui constitue du harcèlement, mais une conduite qui est suffisamment grave, bon, ben, ça peut être une cause de harcèlement. Faut pas négliger l'impact d'une seule parole ou d'un seul geste grave.
OK.
Et là-dessus, là, ce que je veux dire, c'est que, en vertu de la loi sur les normes du travail, l'employeur, il a l'obligation de prévenir ou de faire cesser le harcèlement. C'est une obligation qui va s'appliquer aussi lors du party de bureau. Ça veut dire qu'un employeur qui serait avisé d'un comportement harcelant lors d'un party de bureau pourrait devoir ouvrir une enquête. Et tout dépendant des conclusions de l'enquête, il pourrait devoir émettre des sanctions disciplinaires contre la personne harceleur. Donc, on pourrait penser à une réprimande, à une suspension, même à un congédiement si les circonstances le justifient. Donc, pour la personne qui serait victime de harcèlement en milieu de travail, elle bénéficie de différents recours pour faire valoir ses droits. Ça peut être premièrement en portant plainte à l'employeur directement. Ça peut être aussi en déposant une plainte à la CNESST, à la Commission des droits de la personne ou encore à son syndicat si elle est syndiquée.
Ah, ben c'est des choses qu'on ne sait pas nécessairement. Est-ce qu'il y a d'autres ressources disponibles pour les personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles? Je pense que tu les connais pas mal, hein?
Oui, plusieurs organismes dans la région qui viennent en aide aux victimes. On pourrait penser notamment au CALAC, donc les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Au Saguenay, là, il y a la maison ISA là, qui offre ces services-là aux victimes. On pourrait également penser au CAVAC, donc les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, qui peut fournir de l'accompagnement, de l'intervention psychosociale aussi dans certains cas. Et aussi, depuis l'an dernier, là, on le rappelle, là, mais le ministère de la Justice du Québec a mis sur pied le programme Rebâtir, qui vise à donner 5 heures de consultation juridique gratuite aux victimes d'agressions sexuelles. Donc, c'est toutes des bonnes ressources.
Ben, je te remercie infiniment, Marc-André, de cette chronique-là, parce que ça nous explique assez clairement. Puis en même temps, il y a des choses qu'on oublie des fois quand on n'est pas victime d'agression sexuelle ou puis quand ça nous arrive, ben, des fois, on est comme un peu démunis. Fait que là, on a toute l'information pertinente. Les gens pourront aller écouter ça sur le balado de CKJ.org dans Simplement Bilodeau à cette heure-ci, le 6 décembre. Vous pourrez aller réécouter à partir de la fin de la journée l'entrevue qu'on a fait avec Marc-André. Puis si on veut vous poser des questions là-dessus, mais pour toute autre question juridique.
Ben, on rappelle aux auditeurs que pour toute question juridique, vous pouvez nous contacter au Centre de justice de proximité. Notre numéro de téléphone, c'est le 88-82-7722. Nos services d'information sont gratuits et aussi confidentiels.
Merci beaucoup, Marc-André. Beau dossier aujourd'hui. Ça a éclairé, je suis sûr, la lanterne de plein de gens qui nous écoutent. Fait qu'on se retrouve peut-être avant Noël, mais plus après Noël. Hein? Ça se peut parce qu'on est aux 2 semaines.
Ça risque d'aller après Noël. Donc, je vais te souhaiter un joyeux temps des fêtes, Annie.
Toi aussi. Merci beaucoup, Marc-André. 10h26.